Où vivrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, mais c'est une actualité qui se reproduit bien souvent, mais qui est liée à une conférence de presse ou une intervention du président de la République qui parlait des quartiers, entre guillemets, et qui parlait d'une sorte de, on peut dire, de repentance nationale par rapport à une situation qui aurait été faite dans l'après-guerre et qui serait donc la cause des problèmes d'aujourd'hui. Alors, c'est un point important et que l'on entend régulièrement dire par des sociologues qui parlent effectivement de ces quartiers, grands ensembles qui ont été construits pour recevoir l'immigration. Et ça devient, à force de le répéter, une vérité. En fait, c'est totalement faux. Donc, il est temps de rétablir pour certains qui n'ont pas vécu ces époques-là une vérité historique, mais en fait qui est, disons, relativement récente. Alors, il faut rappeler la situation de la France dans l'avant-guerre et pendant les cinq années de l'occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui, sur un plan de, on peut dire, de l'habitat et de l'hygiène, est en retard par rapport à ses voisins et européens, en tout cas les voisins du Nord, et ne parlons pas des États-Unis, pour différentes raisons. Mais la guerre n'a pas évidemment résolu les problèmes parce que pendant ces cinq années, il n'y a rien qui a été fait. Au contraire, les choses se sont dégradées. Donc on arrive dans les au début des années 50, avec à la fois un besoin très important de logement qui est lié aussi à l'industrialisation nouvelle qui arrive, qui fait que les villes, mais d'une manière générale, grandes villes et villes moyennes, attirent des populations qui sont souvent de la campagne, en même temps que l'industrialisation agricole. On a effectivement des bureaux et des industries qui sont, on peut dire, urbaines. Donc ce mouvement de population, on peut dire, va durer jusque dans les années 75, qui est en fait la baisse de population rurale et une augmentation de la population urbaine, encore une fois prise d'une manière assez large. Alors parallèlement à ça, il y a une politique très active de construction moderne, de construction neuve, que l'on appelle aujourd'hui les grands ensembles et qui sont pour la plupart de ces populations des lieux particulièrement chéris. Et on découvre les salles de bain, on découvre des logements qui sont ensoleillés, salubres, où il n'y a pas de salpêtre par rapport à des populations qui habitaient dans des fermes et qui étaient effectivement sans hygiène, et également dans les quartiers des villes, avec, comme je vous disais, en retard, on parle bien sûr des classes moyennes, les riches, qui ne représentent évidemment pas une grande part de la population, ne souffrent pas de cela. Donc, nous arrivons dans ces années 50-60 et ces constructions sont habitées par une nouvelle classe moyenne qui découvre les plaisirs du confort moderne, qui est le chauffage, les salles de bain, les WC. Et on n'a plus les WC sur le palier partagés avec d'autres, ce qui était le cas d'une grande partie de la population française. Mais ça, c'est des choses que l'on a oubliées. Donc, le phénomène qui est à peu près général qui va se passer dans cette décennie, c'est que ces logements ne vont pas se dégrader comme on entend dire aujourd'hui. J'entendais l'autre jour une sociologue raconter que ces logements étaient très dégradés rapidement et que la population a fui. Non, ce n'est pas cela. Ce qui va se passer, c'est qu'on a les 30 glorieuses, on a ces classes moyennes qui ont revenus qui augmentent. Il y a aussi une inflation qui favorise les emprunts et on a donc le phénomène de la maison individuelle avec les lotissements autour non seulement des grandes villes, mais aussi des petites communes, des villes moyennes. Et on a une grande partie de la population qui va partir de ces logements hygiéniques qui étaient confortables, mais pour le rêve de la maison individuelle. Et aujourd'hui, c'est une situation qui perdure. Et même si il est de bon ton de critiquer ce changement d'habitat, il n'en reste pas moins qu'une grande partie de la population de classe moyenne s'est trouvée tout à fait satisfaite de cela. Donc arrivent les années 60, il y a effectivement la guerre d'Algérie et avec aussi le départ d'Algérie à la fois des populations d'origine européenne, mais également une population d'origine maghrébine et qui vont investir ces logements qui sont abandonnés, on peut dire, mais par un flux normal. Il y a en permanence des changements dans ces populations et petit à petit, on a une autre population qui va remplacer cette population dans les logements. Alors, répétons encore une fois que ça n'a pas été une politique forcée, mais ça a été une politique assez naturelle, c'est-à-dire que ces logements se libéraient, ils étaient pris par les gens qui arrivaient. Le phénomène, d'ailleurs, a continué. Alors, quand on parle aujourd'hui d'assigner à résidence, je pense qu'on se trompe totalement parce que l'assignation à résidence est un terme juridique, tout le monde le sait, c'est qui des détenus sont obligés de ne pas bouger. Et aujourd'hui, il y a les bracelets électroniques. Mais enfin, ça veut dire qu'on est contrôlé, on ne bouge pas. C'est un phénomène qui n'existe pas en France. Personne n'est assigné à résidence s'il n'a pas commis de méfaits. Donc, aujourd'hui, ce mythe qu'une population qui aurait été d'origine immigrée est assignée à résidence depuis 50 ans ou 60 ans est évidemment une erreur totale, puisque si on avait cela, on aurait les grands ensembles, entre guillemets, les fameux quartiers qui seraient habités que par des personnes âgées et pas du tout par cette jeunesse. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé le même phénomène, c'est-à-dire que la population, les nouvelles populations, qu'elles soient, on avait vu les classes moyennes, puis après les nouvelles classes moyennes qui sont issues de l'immigration, vont dans des maisons et il y a toujours un flux d'immigration qui remplit ces quartiers. Donc aujourd'hui, on a effectivement une jeunesse, mais une jeunesse qui est immigrée et souvent de pas très longue date, qui habite dans ces quartiers. Et la population, on peut dire d'origine, est relativement faible. Donc, cette critique qui cherchera à faire porter à la fois sur le politique ou sur les bailleurs sociaux une responsabilité qui n'est pas celle-là, ça me paraît assez aberrant et le problème y est ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui est important parce que on a lié d'une manière, on peut dire, simpliste, les phénomènes de non-intégration de populations immigrées au logement, en faisant porter sur le poids du logement les problèmes. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Alors c'est pas que, en tant qu'architecte, j'essaie de défendre ma profession, mais c'est quelque chose qui est évidemment complètement faux, puisque le contenant et le contenu sont des choses différentes, et les problèmes qui sont des problèmes sociaux ou des problèmes de civilisation, de culture, que sais-je, enfin politique en tout cas, d'une manière générale, ne sont pas des problèmes uniquement de contenant, c'est-à-dire les boîtes logements qui contiennent les populations. Alors, c'est un problème qui a été traité d'une manière radicale par des démolitions, par la politique de la ville, qui a coûté extrêmement cher, avec des milliards dépensés d'euros chaque année pour ces démolitions reconstruction. Et bien évidemment, ce n'était pas le problème, parce que le problème était ailleurs. Donc, je ne vais pas vous donner des recettes et par rapport à ça, mais je ferai une réflexion, notamment dans la deuxième partie du propos, après la pause musicale, sur l'esquisse de quelques solutions qui ne sont pas uniquement des solutions trop facilement architecturales. Alors, le mot ghetto aussi a été employé et assigné à résidence et ghetto, et c'est un mot qui me gêne, et notamment ses dérivés, ghettoisation, enfin c'est un mot qui est abusif pour plusieurs raisons. Ça me paraît tout à fait anormal. D'abord parce que ça renvoie à une histoire qui est liée à la communauté juive, et on sait ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment l'épisode terrifiant du ghetto de Varsovie. Et je pense que la mémoire historique mériterait qu'on soit un peu plus prudent sur l'emploi de ces mots. Alors, les ghettos, l'origine du ghetto, c'est par exemple le ghetto de Venise. C'était un quartier qui était uniquement réservé aux Juifs. Et donc, il y avait une interdiction pour les Juifs d'habiter dans l'autre partie de la ville. Et il faut dire aussi qu'il avait un double aspect dans une époque où, effectivement, les tensions interreligieuses étaient importantes. Il y avait des grilles qui fermaient le ghetto la nuit, et qui étaient à la fois une protection pour les Juifs, qui ne pouvaient pas sortir pendant la nuit, mais aussi qui étaient protégés contre les incursions barbares de gens qui leur voulaient du mal. Donc l'histoire des ghettos est assez compliquée. C'est un mot aussi qu'on n'emploie jamais aux États-Unis. Quand on parle de quartier, on parle de quartier noir, black neighborhood, on ne parle pas de ghetto. Et ça, c'est les Français qui continuent toujours de parler des ghettos noirs américains, attendu que ce mot n'est pas employé. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui me paraît assez complexe, mais les mots ont leur importance, et je crois que en utilisant assigné résidence et ghetto pour désigner des choses qui n'ont rien à voir, c'est une erreur, et les erreurs de sémantique, les erreurs de mots, ben, on le sait, peuvent conduire à des politiques absurdes et aussi à des situations dangereuses. Donc je vais reprendre cela après la pause musicale. Donc nous reprenons le propos sur les quartiers que l'on ne devrait pas appeler assignés à résidence et ghetto. Et pour le mot « quartier » entre guillemets est toujours assez complexe. Et je vous ai parlé de l'origine de ces bâtiments. Et il faut dire aussi que quand ils ont été construits, ils ont été très bien accueillis par les populations. Ils étaient aussi conçus par des architectes de qualité. Il y a un grand nombre de ces ensembles qui sont restés de qualité, mais il est vrai que quand on regarde les plans de l'époque, ils étaient conçus dans une pensée de ville verte. C'était le mouvement moderne qui, effectivement, introduisait à la fois l'air, la lumière et la verdure. Mais c'était une époque où il y avait peu de voitures et qu'aujourd'hui, les voitures ont, disons, c'est plutôt le macadam qui envahit l'espace vert et les voitures sur le macadam. Donc il y a un aspect qui n'est plus du tout celui des origines, et ça c'est un phénomène qui a pu être aussi ces dernières années modifié d'un côté positif par des aménagements paysagers. Donc tout n'est pas aussi noir. Mais ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette liaison entre architecture et population n'était pas du tout évidente et qu'on en avait fait une fixation et des politiques lourdes des grands projets de ville. Et on s'est rendu compte que malgré les déclarations d'hommes politiques comme Borloo se glorifiant de succès en comptant les immeubles démolis, en fait, c'était tout à fait négatif, à la fois pour les démolitions d'immeubles qui n'avaient aucune justification d'être démolis et des reconstructions qui, effectivement, ne changent rien au problème puisqu'on construit à peu près pareil et on n'est pas d'une manière différente. Alors, il y a dans les théories d'architecture, et ça j'en ai déjà parlé, mais enfin je vais le rappeler, on peut dire à partir de 68, une fin du mouvement moderne qui est remplacée par une nouvelle génération c'était le slogan de Mitterrand, changer la ville, changer la vie. Simplement, c'était resté en slogan, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des slogans et de s'estimer révolutionnaire et que de théoriser et de proposer un modèle nouveau. Donc la politique des centres-villes, c'est un thème que je développe assez souvent, a été faite par défaut dans cette absence justement ou cette incapacité de reconsidérer une théorie par rapport au mouvement moderne. Donc on a simplement jeté le mouvement moderne aux orties et on a dit la ville idéale, c'est la ville ancienne, parce qu'effectivement, on n'avait rien pu le remplacer. Donc on a inventé cette théorie de la ville ancienne et comme la ville de vivre ensemble et tout un discours sociologique là-dessus qui n'a absolument aucune réalité historique, qui est évidemment complètement faux au point de vue de l'histoire, j'ai pas besoin de la rappeler. Le vivre ensemble où les classes vivent harmonieusement, je pense que j'ai pas besoin de faire de grands rappels historiques par rapport à cela. Donc il s'agit d'une utopie qui n'a absolument aucune réalité, mais qui imprègne toute notre pensée urbanistique aujourd'hui. Alors, comme on ne sait faire que des centres-villes, on a développé aujourd'hui, les architectes ont développé la théorie du polycentrisme. Ça veut dire de plusieurs centres. Or, déjà, le concept est un peu foireux parce qu'il y a un centre, mais s'il y a plusieurs centres, c'est qu'il n'y a plus de centres. Mais enfin, bon, passons sur ça. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reproduire des petits centres dans des quartiers. Et c'est la politique qui apparaît comme lumineuse. Il y a eu une consultation à Paris il y a quelques années, des grands cabinets d'architectes choisis. Alors, j'avais bien étudié les propositions. Tous, sans exception, ont proposé le polycentrisme. Évidemment, c'était, en fait, on allait créer et dupliquer les centres. Évidemment, ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait. C'est d'ailleurs très difficile et impossible à faire, parce qu'on parle beaucoup de centralité, comme s'il s'agissait d'une sorte de poudre de perlimpinpin que l'on va distribuer dans les quartiers. On sait très bien que ça dépend du commerce, ça dépend des flux de population, et que vous ne pourrez pas décréter que sur cet espace, ça sera l'équivalent à Toulouse, de la place Saint-Georges ou la place Wilson. On a bien essayé de le faire au Mirail et ça n'a jamais marché. Donc, mais on continue toujours de faire croire. Alors effectivement, aujourd'hui, on a des images du numérique magnifiques et qui font rêver les élus et les populations le temps que ça devienne effectivement des coupe-gorge, même si ce mot, on ne devrait pas l'employer dans les jours aujourd'hui, en tout cas, pardon. Alors, ce que je disais, c'était que ce polycentrisme étant une erreur, il faudrait penser la ville autrement et il faudrait peut-être la regarder autrement que la vision des centres-villes. Alors, je l'ai développé, mais je vais le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, on a, dans la ville ancienne, non pas une sorte de noyau central avec des cercles tout autour. Ça, c'est la représentation mentale, mais la réalité n'est pas celle-là. Regardez Toulouse, par exemple, et on pourrait appliquer ça à la plupart des villes. Vous avez une continuité nord-sud qui était d'abord l'axe romain, puis il y a eu l'axe médiéval, et puis il y a eu l'axe 19e siècle, 20e siècle, avec la rue du Languedoc et la rue Alsace. Et on a donc cet axe nord-sud qui est en parallèle de la Garonne et qui dissocie la ville, en fait, depuis la création. Alors, je n'étais pas dans la ville romaine, mais en tout cas, la ville médiévale, elle a suffisamment de restes de noms de rues pour voir que d'un côté, il y avait les artisans, la population ouvrière, et de notre côté, on avait la ville avec la cathédrale, les immeubles de l'aristocratie, puis les immeubles de la bourgeoisie dans les quartiers qui sont aujourd'hui le Grand Rond, même s'il y a eu des modifications urbanistiques. Et si vous regardez par exemple cet axe, eh bien on pourrait le faire démarrer depuis l'hôtel de région et le palais de justice, et on remonterait sur les Carmes, le service de l'urbanisme, la mairie de Toulouse, où vous avez d'un côté la cathédrale et la place Esquirol, la mairie, et on a l'université et la fac de droit, le conseil départemental, le commissariat central. Enfin, vous voyez qu'il y a un axe nord-sud dans lequel les institutions importantes de la cité sont regroupées le long de cet axe. Donc, en fait, on n'a pas le cercle qui est imaginaire. On a un axe linéaire et on peut retrouver ça. Donc la question, c'est pourquoi ne continue-t-on pas d'avoir justement ces axes qui sont des interfaces dans lesquelles les populations ont les institutions. Si vous faites le polycentrisme, ça veut dire que vous aurez, on va dire les mots, vous aurez au centre la mosquée et vous aurez dans des quartiers refermés, comme sont refermés les tribus ou les caravanes des migrants américains où on mettait les chariots en cercle avec le cercle au milieu pour se protéger de l'extérieur. Donc ça, c'est une vision justement communautarisme et de territoires qui sont isolés et qui sont conflictuels. Et ce qui est important au niveau de l'urbanisme, C'est justement de traduire dans la visibilité de la ville ce qui fait le lieu commun, le bien commun et les institutions qui sont partagées. Les institutions, c'est effectivement les lieux de l'enseignement, les lieux du pouvoir que je viens d'énumérer. Et il suffirait de reproduire l'implantation, non plus une des représentations justement polycentriques où on aurait le collège en tel qui va être pour tel quartier, etc., mais des endroits où justement les populations peuvent se rencontrer. Alors même si le terme est un peu démagogique, mais en tout cas, il n'y aurait pas cette appropriation et ces interdits de population. Alors évidemment, ce n'est pas l'urbanisme qui va changer la société, mais en tout cas, ça peut y contribuer. Et en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la situation inverse, celle que l'on fait aujourd'hui, faite de ces démolitions, centralités ou ces polycentrismes, sont totalement négatifs et ne font qu'accentuer la coupure communautaire dont on se plaint aujourd'hui. Voilà, j'ai esquissé brièvement un schéma, mais on reviendra sur cela dans d'autres émissions. Et je vous remercie de votre écoute. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Merci à Yanis qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et son application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?